France Musique. Musique et moi, une émission en partenariat avec le magazine Grazia.
Musique et moi.
Josiane Savignon.
Elsa Boublil.
Le travail détruit l'abus des sentiments.
Le conte de Lautréamont. C'est sur ce couplet 5 des Folies françaises de François Couperin, La fidélité sous le domino bleu, que nous vous accueillons, Josiane Savignon, journaliste. Vous avez dirigé Le Monde des livres de 1991 à 2005. Vous êtes également l'auteur de plusieurs livres, dont deux biographies sur Marguerite Yourcenar et Carson McCullers, un essai littéraire avec Philippe Ross, paru chez Gallimard. Et puis, tout récemment, vous avez écrit À quatre mains avec Philippe Solers, une conversation infinie chez Bayard, autour de l'amour, l'amitié, la littérature, la politique, la religion et la fidélité, d'où ce court couplet interprété par Scott Ross à l'instant, et qui est une musique chère à Solers, je crois, et à vous aussi, Josiane Savignon, bonjour.
Oui, bonjour. Oui, j'aime beaucoup, d'abord j'aime beaucoup le clavecin, je sais pas, c'est un instrument qui me touche beaucoup, et puis les Folies françaises, c'est le titre d'un livre de Solers, oui. En 1988. Et je connaissais pas ce morceau avant. Je connaissais déjà d'autres morceaux de clavecin, mais pas celui-là. Oui. Mais je sais pas pourquoi le clavecin est un instrument qui me touche autant.
On va pouvoir en parler parce que vous l'avez pas mal choisi, d'ailleurs, dans les sélections d'œuvres que vous avez proposées pour préparer cette émission, puisque le principe, c'est de vous demander de venir avec quelques œuvres musicales qui ont compté pour vous. Alors, je voulais, avant que l'on poursuive, que l'on parle de cette phrase du conte de Lautréamont, « Le travail détruit l'abus des sentiments », qui allait bien, je trouve, avec la dernière conversation que vous avez eue avec Philippe Solers.
Mais c'est Solers qui me l'a dit, cette phrase. Un jour où j'étais sans doute un peu déprimée, et en m'incitant, en effet, à travailler, parce que le travail détruit l'abus des sentiments. Mais c'est vrai que parfois, quand on se laisse un peu aller, on a du mal à se remettre au travail. Je me dis souvent ça, quand j'ai un petit coup de mou. Aller au boulot parce que le travail détruit l'abus des sentiments.
Et si on le prend autrement, ça peut être aussi que le travail, dans la conversation que vous avez avec Philippe Solers, le travail permet de définir les sentiments, en tout cas de pouvoir outrepasser les sentiments juste amicaux qui sont les vôtres avec Philippe Solers.
C'est possible, on peut dire ça, mais je n'ai pas tellement perçu cette conversation comme un travail.
Et c'est ça.
Sauf au moment de... Parce qu'on a fait certains enregistrements, donc au moment de les décrypter, ça c'est un travail légèrement ennuyeux.
Donc ça reste quand même un peu à travail. Et la musique est très présente dans cette conversation infinie. Philippe Solers la cite, vous la reprenez à votre compte, et même des œuvres qui paraissent dans cette conversation infinie apparaîtront au cours de cette émission, puisque vous êtes l'invité de Musique et moi jusqu'à midi et demi. Et c'est donc Josiane Savignon, l'invité de Musique et moi.
La belle de Calix a les yeux de velours. La belle de Cadix vous invite à l'amour. Les cavaliers sont assis dans la fosse à une franquette dame. Et pour ces jolis vieux noirs, les hidalgos le soir viennent taper la chasse. Mais malgré son sourire et son air engageant, la belle de Cadix ne veut pas de l'amant. Aïe aïe aïe, chica chica chi, aïe aïe aïe, chica chica chi, aïe aïe aïe, ne veut pas de amant. La belle de Cadix a les yeux langoureux. La belle de Cadix a beaucoup d'amoureux. manito de cristal, si le viene un rival, su arroz le derrida. Y Pedro le matador, le me brinda cordonerita por ti. Malgré tu rire, ton eran gajar. La belle de Cadix ne veut pas de la main. Chica, 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 aïe, 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 chica, 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 aïe, 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 chica, 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 aïe, 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 ne veut pas de la main. La belle de Cadix est partie un beau jour. La belle de Cadix est partie tardou. Era da mille vida al mondo il brui tutte le preghinilla e par un po' per mantella aprì lo chemin di media tanta odiria la vera de Cadix n'ha jamais lui d'ama la vera de Cadix è tante reoccupa. Chica chica, ay ay ay, chica chica chica, ay ay ay, chica chica chica, ay ay ay.
Nous n'avons pas osé chanter parce qu'il faut avoir la voix de Luis Mariano qui chantait donc La Belle de Cadix, mais c'est vrai que c'est un air qui donne envie de chanter avec lui, José Anne Savigno. C'est d'ailleurs un chanteur qui a apparemment accompagné votre enfance, qui était une star du temps de votre enfance, j'imagine.
Oui, c'était une star du temps de mon enfance, dans les années 50, c'était une grande star. Et chez moi, on n'écoutait pas ce qu'on appelait de la grande musique à l'époque, vous voyez, mais on écoutait beaucoup Luis Mariano, Tino Rossi, et moi après, il y avait un tourne-disque, et donc après, moi, je me suis acheté un peu plus tard des 45 tours. Et après, j'ai découvert des choses que j'aimais beaucoup dans la chanson française. Mais enfin, au tout début, il y avait plutôt ça. Et alors, là, à l'époque, j'osais chanter. Ça m'était complètement égal de chanter faux. Ouais. Et j'écoutais ça, je virevoltais, je chantais. C'était très amusant. Mais alors, là, c'est drôle parce que j'ai pas écouté ça depuis des années. Me voilà revenu avec ça, reparti très, très loin.
Donc, les années d'enfance à Châtellerault, c'est bien ça? Oui. Quel genre de famille, vos parents écoutaient donc cette musique-là, que faisaient-ils?
Ben alors au début, quand mon père est rentré de la guerre, il n'avait pas de travail, donc ma grand-mère avait une épicerie, donc et il s'est occupé de l'épicerie puisque mon grand-père était mort avec ma mère. Et puis après, il est allé à Poitiers, il a fait autre chose, il a travaillé pour ce qui s'appelle Super U maintenant.
Ouais, c'est supermarché.
Il y a très longtemps. Ouais. Et en fait, lui, il aimait beaucoup la chanson française. Après tout,
Brassens.
Il a beaucoup aimé Jean Ferrat, par exemple. Ferrat. Il était très fan de Jean Ferrat. Mes parents, j'ai beaucoup de respect pour ma mère. Bon, je suis une fille à père, comme on dit, c'est-à-dire que j'adorais mon père. Mais j'ai beaucoup de respect pour ma mère parce que dans sa génération et son milieu social, quand j'avais 8 ans, elle m'a dit, tu sais, tu dois bien travailler à l'école parce que tu devras jamais demander ton argent à un homme. Et j'ai trouvé ça extraordinaire. Parce que dans son milieu, les filles, on s'en fichait. Je veux dire, on allait les marier et puis on oubliait. Les garçons, on pouvait se préoccuper un tout petit peu plus qu'ils travaillent bien à l'école. Mmh. Mais les filles, en général. Et donc, ma mère est tranchée par rapport à ces gens-là. Elle était féministe sans le dire, ouais. Sans le savoir, sans connaître le mot.
Et vous aviez des frères et sœurs?
Non.
D'accord. Donc, en fait, elle vous a transmis cette possibilité d'être libre, qui est d'ailleurs abordée dans la conversation infinie avec Philippe Solers, et qui est l'émancipation passe par l'argent.
Oui, mais l'absence de frères et sœurs, c'est vraiment une blessure d'enfance. Ouais. Dès que de mes amis me racontaient qu'elle allait avoir un petit frère ou une petite sœur, je rentrais à la maison en pleurant. J'ai compris bien plus tard que j'avais failli tuer ma mère en naissant et que ça n'avait pas dû l'inciter à recommencer. Mais ça m'a pris beaucoup de temps.
La lettre à Élise, bagatelle numéro 25 en la mineure de Ludwig van Beethoven, interprétée par Lang Lang. Et ça vous a fait replonger dans l'enfance. Vous l'écoutez comme avec recueillement, Josiane Savigno.
Ben oui, ça m'a renvoyé très loin. Ça aussi, c'est peut-être en effet en peinant sur les premières mesures que je me suis aperçue que j'étais tellement besogneuse au piano que c'était pas utile de continuer, qu'il valait mieux que j'écoute de la musique plutôt que essayer de casser les oreilles des autres en essayant d'en faire.
Est-ce que vous avez cherché à apprendre à jouer? C'est vous qui avez demandé à vos parents, c'est eux qui vous ont proposé?
Non, c'est moi qui leur ai demandé. En plus, je savais quand même que c'était pour eux un sacrifice pas énorme, mais quand même, c'est pas des gens qui roulaient sur l'or. Et ils avaient le souci, vous savez, dans cette génération de gens qui ont été très jeunes pendant la guerre de 40, ils avaient le souci que leurs enfants aient une meilleure vie que la leur. Et donc, ils étaient prêts à m'aider à ce que ce soit mieux, à faire ce que j'avais envie de faire. Donc un jour, j'ai dit, moi, je voudrais bien prendre le piano. Alors, on a loué un piano. Et puis, j'ai commencé à prendre des leçons. J'ai fait d'abord des leçons de solfège. C'était un peu barbant, mais je pensais qu'il fallait en passer par là. Et puis après, l'instrument, je sais pas, je le touchais avec bonheur, mais j'étais besogneuse. C'est ce qui me vient à l'esprit, comme besogneuse.
Et vous en êtes rendu compte, parce que
j'avais
c'est
les
pas
doigts
évident.
Lourds. J'avais les doigts lourds. Parce que j'étais là en train de répéter sans arrêt. J'entendais bien que ça n'allait pas, quoi.
Mais la passion de la musique ne vous a pas quitté, parce
non. Mais je voyais des condisciples. Je sentais que eux, ils avaient le sens du toucher du piano. Que quand ils le touchaient, il se passait quelque chose. Moi, si j'étais là en train de regarder ma partition, tac, 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 tac. Non, vraiment, j'ai honte. Alors, je ne sais plus qui. J'ai entendu l'autre jour sur France Musique quelqu'un qui disait que le piano, c'était de 5 ans à 99 ans. Alors, je devrais peut-être réessayer, on ne sait jamais.
Il y a quelques invités qui sont passés par là. Je pense à Eric Orsena, qui ont repris ou pris le piano très tardivement. Donc, tout est possible, je sais.
Après tout.
Ça ne vous a pas empêché, comme je disais, d'aimer la musique, on va se rendre compte aujourd'hui. Et notamment d'aller écouter Karajan, c'est ça, à Berlin?
Mais oui, c'est-à-dire que j'ai fait toujours cette histoire de mon père ayant été donc prisonnier en Allemagne pendant toutes ces années, n'ayant pas réussi à s'évader parce qu'il était tout à fait à l'Est, donc c'était compliqué, il a toujours été repris, et il avait ce souci de la réconciliation franco-allemande, donc il fallait que je fasse allemand en première langue. Et donc je faisais des séjours linguistiques en Allemagne pendant l'été, et un jour, parmi ces séjours, il y avait Philharmonie de Berlin, 9e symphonie avec Karajan, et là je suis restée quand même époustouflée devant cet homme.
Thank you.
Herbert von Karajan dirige le scherzo Allegro vivace de la symphonie numéro 3 en mi bémol majeur opus 55 de Beethoven, qui fait partie des symphonies que vous avez écoutées dans votre jeunesse, Josiane Savigno, suite au concert que vous avez entendu à l'orchestre, au Philharmonique de Berlin.
C'est-à-dire que je crois que même si on était très novice, ce qui était mon cas, on pouvait pas manquer d'être impressionné par la présence de cet homme. Donc ensuite, j'ai voulu en savoir un peu plus. Et je me suis intéressée aussi à son rapport avec les cantatrices. Mmh. À sa manière de diriger les cantatrices de manière assez extraordinaire. Ça m'a beaucoup fascinée. Et du coup, ça m'a menée à quelqu'un qui m'a beaucoup impressionnée, qui est Elisabeth Schwarzkopf. Mmh. Sans doute avec cette espèce de rigueur et de puissance et de volonté, de maîtrise de soi qui me fascine.
Mais du coup, c'est séjour linguistique teinté joliment, par exemple, de ce concert, ont été profitables. Ça vous a permis d'apprendre à parler l'allemand, parce que c'est vrai qu'on se dit que vivre des expériences comme ça peut être tout à fait prometteur en matière de langue.
Mais vous savez, c'est terrible, parce que quand j'ai rangé la maison de mon père après sa mort, j'ai découvert des dissertations que j'avais faites en allemand. Et j'ai regardé ça en me disant que je serais pas capable aujourd'hui. Il faudrait que je fasse un sérieux retour pour y aller. Mais c'est vrai qu'à l'époque, je suis allée beaucoup en Allemagne. Et puis ensuite, après, j'ai même travaillé pour pouvoir me payer une voiture parce que le marque était fort. Et donc, je pouvais gagner des marques et après m'offrir une petite voiture quand j'avais 18 ans.
Et ce concert à la Philharmonie de Berlin, est-ce que vous en gardez un souvenir précis de ce que vous avez ressenti? Est-ce que vous aviez conscience que vous voyiez Karajan diriger l'Orchestre Philharmonique de Berlin?
Oui, je crois que le souvenir que j'en ai gardé pour toujours, c'est la puissance de cet homme, la puissance de ses gestes, et puis aussi la manière dont l'orchestre était totalement suspendu à lui.
Musique et moi, Elsa Boublil, France Musique.
Josiane Savigno, vous êtes l'invitée de Musique et moi donc ce matin sur France Musique. Et après ces séjours linguistiques, qu'est-ce qui va vous mener, ou pas d'ailleurs, tout de suite vers le journalisme? Comment vous décidez de devenir journaliste? Est-ce que ça s'impose à vous?
Oh, ben ça, c'est une drôle d'histoire. C'est-à-dire que mon père était un fan absolu de journaux, et même avant la télévision, de radio. C'est-à-dire que quand il arrivait, il fallait écouter le journal. Hein, et puis, très tôt, on a parlé ensemble de politique, c'est plutôt pour m'expliquer. Par exemple, quand De Gaulle est arrivé en 58, pourquoi, qu'est-ce qui se passait, etc. Donc, c'est mon premier souvenir. J'avais 7 ans, c'est mon premier souvenir politique. Donc, ça m'intéressait beaucoup et j'ai eu envie d'être journaliste. C'est-à-dire, quand je suis arrivée à ce qu'on appelle l'orientation, là, j'ai vu un conseiller d'orientation. Il m'a dit, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Je lui ai dit, journaliste. Et il m'a dit, tu n'y penses pas. Tu es provinciale, tu es une femme, tu n'es pas née dans la bourgeoisie, tes parents n'ont pas de relation, oublie.
Ah bon? Déjà?
Oublie. Mais je suis pas du genre à oublier. Donc je me suis dit que c'était pas un sacerdoce non plus. Hein, que si j'y arrivais pas, il y a des tas de choses à faire dans la vie, mais que c'est ce que j'avais envie de faire et que j'allais essayer.
Donc le monde, c'est venu vite?
Non, le monde, c'est venu bizarrement. C'est-à-dire que j'ai passé plusieurs années, enfin deux années à New York. Parce que, évidemment, avec l'allemand en première langue, j'avais pas appris l'anglais. Et j'avais pas trop envie d'aller en Angleterre, donc je suis allée à New York. Et ensuite, je suis rentrée, j'ai fait le centre de formation des journalistes de Paris. Et moi, j'avais envie de retourner aux États-Unis. Mais j'ai eu un stage au Monde. Alors évidemment, quand on a un stage au Monde, pour moi, c'était désarçonnant parce que je pensais que le Monde, on y arrivait quand on était un peu vieux.
Donc, vous êtes restée en France, mais vous avez vu le Monde.
Oui, c'est ça.
Yes.
Cecilia Bartoli interprète cette air du plaisir de l'acte 2 de Il trionfo del tempo e del disinganno de Handel. Très bel air qui dit « Laisse l'épine, cueille la rose, tu pars en quête de ta souffrance. Une blanche froidure apportée par une main cachée viendra lorsque ton cœur ne l'attend pas. » Et c'était un moment où il y avait quelque chose qui planait entre nous, Josiane Savigno, parce que c'est un souvenir important pour vous dans votre vie.
Oui, c'est un souvenir très important. C'est une femme dont j'étais très proche et qui allait mourir parce qu'elle avait perdu le combat contre sa maladie, le cancer. Et elle adorait cet air et on l'écoutait. C'était en 2011, quelques mois avant sa mort. Et elle chantait très bien, elle chantait depuis longtemps. Donc elle chantait aussi volontiers. C'est un air que j'aime beaucoup, que finalement j'ai plus tellement à écouter pendant ces années parce que c'était un peu douloureux. Mais c'est bien de conjurer ça et de réécouter à nouveau.
La musique chez vous semble très relié à l'amitié, au lien que vous avez tissé d'ailleurs au fil du temps avec vos amis journalistes, notamment Josiane Savigno. La musique est indissociable de l'amitié ?
Ah, pour moi, oui. Pour moi, oui. Si on ne peut pas écouter de musique ensemble, il y a quelque chose qui ne va pas. Et j'avais un ancien prof de latin que j'aimais beaucoup, mais on avait ce problème, c'est qu'il était sourd à la musique, et donc on allait visiter des expositions ensemble parce qu'il avait l'œil pictural, mais qu'il soit sourd à la musique me déplaisait beaucoup.
Pour revenir à ce métier de journaliste qui a été le vôtre, comme vous dites, vous avez été prise en stage au Monde et puis voilà, là, ça, vous êtes restée. Est-ce que vous avez vite su que vous vouliez aller vers la culture ou ça s'est fait tout seul ?
Non, ça s'est fait plutôt tout seul. En fait, j'étais au départ à la rubrique justice et ça me plaisait beaucoup. J'aime beaucoup la chronique judiciaire. Ma consœur Pascale Robert-Dière, qui le fait maintenant, fait ça très très bien, je l'admire beaucoup. Et j'aimais beaucoup ça, cette espèce de lieu géométrique des échecs qu'est la cour d'assises. Et puis, il se trouve que François Bott, qui à l'époque dirigeait le Monde des Livres, s'intéressait beaucoup, enfin non, ne dirigeait pas le Monde des Livres plutôt, c'était Jacqueline Piatier, et quand elle a pris sa retraite, il a pris sa place, il s'intéressait beaucoup aux faits divers et à la justice, donc il me lisait. Et il est venu me voir pour me demander si j'avais envie de... J'ai beaucoup hésité, parce que je me sentais un peu droguée à l'actualité, je me disais, le livre, c'est pas tout à fait dans l'actualité, mais en même temps, j'avais aussi envie de renouer avec cette passion-là, et... Mais vous savez, les choses se font comme ça. Mon chef de service de l'époque, que j'estime beaucoup, Bruno Frappa, me dit « Vous voulez aller au Monde des Livres ? Sachez qu'il y a 12 candidats. » Et là, je me suis dit « Merde, s'il y en a 12, il faut que ce soit moi. »
Donc, après avoir conjuré le sort de la journaliste qui n'avait pas de relation dans le monde parisien, vous avez bravé les candidatures des autres futurs journalistes attachés au Monde des Livres. Eh ben, bravo. On continue avec encore un peu de clavecin, puisqu'il en était question, et couperin. Voilà.
Allez, poursuivre.
Thank you.
Scott Ross interprète la Forqueraie de François Couperin, extrait des pièces de clavecin du livre 3, donc de Couperin. Et c'est un livre où, je ne sais pas, vous avez tout écouté de Couperin. Comment ça s'est passé? Parce que vous avez un rapport fort à ce compositeur.
Oui, peut-être pas tout, mais enfin, il se trouve que Yannick Guillou, qui travaillait chez Gallimard, maintenant il est parti, il habite en Normandie.
C'est l'exécuteur littéraire.
C'est l'exécuteur littéraire de Marguerite Yourcenar.
Donc, sur qui vous avez travaillé?
Sur qui j'ai travaillé, voilà. Mais donc, d'ailleurs, à l'instigation de Yannick, après, mais avant la mort de Marguerite Yourcenar, quand elle est venue à Paris, dans les années 86, puisqu'elle est morte en 87, Yannick Guillou avait fait une soirée chez lui où il a joué du clavecin. Et comme déjà j'aimais beaucoup le clavecin, j'étais tellement contente de le voir jouer. Et ensuite, on s'est mieux connus, puisque j'ai travaillé sur Marguerite Yourcenar, à sa demande, à la demande d'exécuteurs littéraires qui voulaient que ce soit moi qui fasse la biographie. Donc on s'est évidemment beaucoup mieux connus, et je lui demande toujours de me jouer du clavecin. Et il m'a fait connaître d'autres compositeurs que Couperin, Marchand, des gens que je connaissais pas du tout. Mais cette Forqueraie, qui est sans doute une des premières choses que je l'ai entendu jouer, lui, chaque fois que je vais en Normandie, je dis « je voudrais d'abord la Forqueraie ».
Et il le fait.
Il le fait.
Voilà, donc un ami avec qui vous avez développé une amitié littéraire et musicale. Il vous a fait rencontrer des clavecinistes, il vous a fait rencontrer du répertoire, vous le disiez à l'instant, et des clavecinistes également.
Oui, parce qu'il a reçu pas mal de clavecinistes chez lui. Il a reçu Gustave Léonard. Malheureusement, je n'étais pas là, j'aurais bien aimé. Mais une fois où j'étais là, il y avait Blandine Verlet, que j'ai trouvé vraiment une femme... assez extraordinaire. J'étais très triste. Elle est morte récemment. C'était très triste.
Oui. Et par rapport au clavecin, tout à l'heure, nous avons commencé l'émission avec les Folies Françaises. On va pouvoir un peu parler de Philippe Solaire. C'est ce que lui aussi, cette amitié est tissée à travers vos goûts musicaux, vos goûts littéraires, ça paraît évident. C'est une amitié de longue date, n'est-ce pas?
Oui, de longue date. Je crois que c'est lui qui m'a offert, il y a 30 ans maintenant, le premier disque de Cecilia Bartoli. Il m'a dit, voilà une fille qui ira loin. Et il m'a offert ce premier disque.
On a écouté tout à l'heure, hein,
oui.
Cecilia Bartoli.
Ouais. Et depuis, évidemment, après j'en ai acheté moi-même, évidemment. Et par exemple, les symphonies de Haydn. Donc un jour, Solaire me dit, mais vous écoutez toujours des sonates de Haydn, pourquoi vous n'écoutez pas les symphonies? À quoi je lui dis, je crois que j'en ai pas beaucoup dans ma discothèque, peut-être j'en ai même pas du tout. Alors j'ai regardé sur internet et j'ai vu que Antal Dorati avait gravé toutes les symphonies de Haydn, 33 CD, et donc je les ai achetées.
On va écouter ça tout à l'heure, mais par rapport à cette conversation infinie que vous avez eue, qu'est-ce qui l'a fait démarrer? Est-ce que c'est la poursuite d'une conversation de longue date? Ou est-ce que vous vous êtes dit, bon, maintenant, on va poser ça? On a quelques sujets qu'on voudrait un peu déblayer ensemble.
Non, on s'est rien dit du tout. Un jour, alors c'est lié à la musique aussi, puisque c'était Michel Tabachnik, le chef d'orchestre, qui se met devant notre table à la Closerie des Lilas, parce qu'on y va souvent, en disant, mais qu'est-ce que vous pouvez bien trouver à vous raconter tous les jours? Donc ça nous a fait rire. Et quelques temps après, on prenait un verre avec Lydia Breda, qui a une collection chez Bayard, et Frédéric Boyer, qui à l'époque était chez Bayard, maintenant il dirige les éditions Paul. On leur a raconté ça. Et c'est eux qui ont dit, bah oui, c'est vrai, pourquoi vous ne mettez pas par écrit ce que vous vous racontez? Alors ils ont évidemment un peu orienté, ils ont donné des thèmes, on voudrait que vous parliez aussi de ça, de ça, de ça.
Donc un peu de travail, beaucoup de conversation, et un peu de clavecin pour poursuivre la conversation avec Gustave Léonard.
Thank you.
Clarificam et Pater de William Byrd, interprété par Gustav Leonhardt. Pour poursuivre cette conversation avec vous, Josiane Savigno, cet amour du clavecin dont vous avez un peu parlé et qui reste très présent puisque la programmation musicale est très tournée autour du clavecin. Qu'est-ce qui vous plaît dans cet instrument ?
Mais justement, j'ai beaucoup de mal à le définir. Je crois qu'il y a une délicatesse. Et aussi parfois, là j'entendais Gustav Leonhardt, il y avait un côté assez répétitif dans ce morceau. Ouais. Et je pense que j'aime bien la musique un peu répétitive.
Il y a quelque chose d'organique aussi. On entend tout dans cet instrument.
Oui, il y a une espèce de... Les sons se détachent, tout se détache, plus souvent que dans le piano. Mm. Et c'est difficile de savoir pourquoi ça me séduit tellement. Mais c'est vrai que j'écoute vraiment volontiers du clavecin. Vous parliez de William Byrd. Et dans les larcins, mais ce n'est pas vraiment des larcins, il se trouve que j'ai une chronique à lire et que Lire appartient
au... Le magazine Lire.
Le magazine Lire appartient au même groupe que Classica. Et donc, évidemment, ils reçoivent beaucoup de disques et ils en mettent sur une table et on a le droit de piocher après la réunion. Mmh. Et j'ai pris un William Byrd, justement, un William Byrd qui m'a beaucoup plu.
Vous avez donc découvert beaucoup de musique avec vos amis. J'avais envie de revenir un peu avec Philippe Solers, que vous citez vous-même. Vous dites « Pour savoir où on en est avec quelqu'un, il suffit d'écouter de la musique ensemble ». Est-ce que vous écoutez de la musique avec Philippe Solers ? Est-ce que vous en avez écouté au préalable de cette conversation ?
Mais on a écouté les symphonies de Haydn, justement, après que je les avais achetées.
D'accord, et ça donne une tonalité à la conversation ? Est-ce que ça renseigne effectivement sur où l'on en est ?
Bah, déjà, on voit si on est capable de faire silence ensemble pour écouter de la musique. Hmm. Après, on voit aussi comment l'autre la reçoit à côté. Si on sent très bien quand des gens font un silence poli, mais... que ça n'entre pas vraiment en eux, la musique. Mmh. Et au contraire, si ça entre... Alors Solers, lui, parfois très démonstratif, parce que comme il a l'oreille, il accompagne volontiers la musique.
En tout cas, vous vous écoutez vraiment, je peux le dire aux auditeurs, vous vous écoutez avec beaucoup d'attention. Alors, parmi vos découvertes, il y a une découverte qui me paraît intéressante au cours de votre métier de journaliste, c'est celle du pianiste Friedrich Gulda.
Oui. Et donc, je ne connaissais pas Friedrich Gulda. Alors, il se trouve qu'à une époque, je dirigeais pas seulement le Monde des Livres, mais toute la culture. Et donc, Alain Lompèche était un de mes adjoints, et Olivier Schmitt l'autre. Et Alain arrive et il me dit « Friedrich Gulda est mort ». Donc, je le regarde d'un air un peu idiot. Et en quelques mots, il m'explique qui était Friedrich Gulda. Et il me dit « Tu dois descendre à la conférence et tu dois expliquer qu'il faut faire l'ouverture culture sur cet homme, même si les gens à la conférence ne le connaissent pas bien ». Donc je suis descendue à la conférence, parce que c'est trouvé plus bas que mon bureau, et j'ai expliqué pourquoi Friedrich Gulda était quelqu'un de très important et pourquoi il fallait faire une ouverture culture, et j'ai été suivie.
Et vous avez pu aussi, j'imagine, après découvrir l'importance de ce pianiste dans le paysage.
Et j'ai même découvert qu'il avait composé des œuvres, et toujours à une réunion du magazine Lire, j'ai piqué un disque d'œuvres de Gulda. Je dois quand même avouer que je le préfère comme interprète que comme compositeur.
Et ben là, on va l'écouter interprétant un standard de jazz que vous allez sans doute très vite reconnaître, aux côtés du grand pianiste de jazz, Chick Corea.
Thank you. Thank you.
Friedrich Gudda et Chick Corea interprètent Someday My Prince Will Come, un jour mon prince viendra, une improvisation en public dans les années 80. Et ce plaisir que vous avez eu à l'écouter, vous ne connaissiez pas. C'était ma petite surprise pour vous.
Ah oui, je savais qu'il avait aussi enregistré du jazz et justement, ça me séduisait aussi beaucoup qu'il ait rompu ces cases dans lesquelles on met les gens. C'est un pianiste classique, tu ne dois pas jouer de jazz. C'est pour ça que j'aime bien aussi certains clarinettistes qui ont rompu ça.
Comme Michel Portal, par exemple.
Michel Portal ou Benny Goodman qui ont enregistré du classique. Mais Gulda, je savais qu'il l'avait fait, mais j'avais jamais entendu. Et en plus, c'est d'une virtuosité assez extraordinaire.
Oui, c'est cette transgression, justement, vous qui avez été dans la culture de nombreuses années, Josiane Savigno, c'est quelque chose qui vous a intéressé. Est-ce que c'est présent dans la culture française, la transgression culturelle?
Ouais, j'espère, mais peut-être pas assez. Mais j'aime bien les gens qui cassent les cadres, qui font pas tout sur les rails. Et Gulda, évidemment, c'est quelqu'un qui le fait. Mais parfois, je trouve ça pas forcément réussi. Par exemple, quelqu'un que j'admire beaucoup, qui est Anne-Sophie von Otter, qui a voulu chanter Barbara. Et elle est pas faite pour ça, quoi. Il faut chacun a son truc, là. Je veux dire, Barbara, déjà, quand d'autres chanteurs la reprennent, c'est pas toujours réussi. Mais les cantatrices sont pas faites pour faire ça.
Alors, précisément, quand on est dans ce merveilleux monde qu'est la culture, il faut savoir rester les yeux ouverts, les oreilles ouvertes. Comment on garde la curiosité en éveil ?
Pour les livres, je l'ai toujours, la curiosité moi-même. Mais alors, les oreilles, moi, j'avais des professeurs formidables. J'avais donc Alain Lompès, j'avais Renaud Machard. Et j'avais quelqu'un qui est historien de formation, mais que j'ai engagé au Monde, qui est Philippe-Jean Catinqui, et qui est quelqu'un, c'est une sorte de surdoué qui s'intéresse à tout. Et alors, il s'intéresse à tout ce qui sort, je sais pas combien de disques il achète, il télécharge pas, il achète. Et donc, on a partagé longtemps un bureau. Et donc, tous les matins, il mettait un disque nouveau. Et j'ai découvert beaucoup de choses. Alors, c'est quelqu'un qui est tellement, comment dire, effervescent quand je lui disais, écoute, voilà, je voudrais acheter tel opéra. Alors, il m'expliquait, il disait, alors ça, c'est l'interprétation canonique, mais alors il y a ça, c'est un peu plus fleuri, puis il y a ça. Il me disait 5 ou 6 interprétations pour que je fasse mon choix.
Musique et moi, Elsa Boublil, France Musique.
Alors précisément, Josiane Savigno, les symphonies de Haydn, l'intégrale des symphonies de Haydn.
33 disques.
Oui, pourquoi Antal Doráty?
Mais c'est Soler ce qui m'a dit, Antal Doráty est ce chef hongrois qui a tout voulu graver avec son orchestre. Et je ne sais pas si c'est trouvable aujourd'hui, me dit-il. Et alors moi je me dis, je veux bien trouver. Donc j'ai cherché, j'ai trouvé 33 disques, un gros coffret. Qui n'était pas si cher que ça, je dois le signaler aussi. Et donc je l'ai acheté et j'ai écouté tout.
Attentivement.
Attentivement.
Bon, on va écouter la reine.
Thank you. Thank you.
un extrait de la symphonie en si bémol majeur, La Reine de Joseph Haydn, interprétée par le Philharmonia Hungarica sous la direction de Antal Dorati. Alors, ça fait partie des symphonies parisiennes composées par Haydn et qui, visiblement, est l'une de vos préférées. J'ai pas fait exprès.
Oui, non, je la trouve vraiment belle. Je la trouve vraiment très, très, très belle. Enfin, il y en a beaucoup. Elles sont vraiment toutes assez magnifiques. C'est vrai, assez magnifiques. Je regrette pas du tout d'avoir écouté toutes ces symphonies. Mais on va pas l'écouter, mais je voudrais quand même dire un mot de sonate parce que je voudrais citer Catherine Collard, qui est une interprète que j'aimais beaucoup et qui malheureusement est morte beaucoup trop jeune. Et je l'écoute volontiers. Donc j'écoute aussi des sonates, je n'écoute pas que des symphonies.
Oui, et les symphonies, vous les avez donc toutes écoutées. Est-ce qu'elles ont apporté quelque chose à votre patrimoine musical? Ça vous a permis de connaître Haydn comme compositeur?
Un peu mieux. C'est-à-dire que j'étais plutôt branchée sur les sonates. Et je le voyais pas comme un grand auteur de symphonies. J'avais tort. Et elles sont assez luxuriantes en plus, ces symphonies. Elles sont vraiment... La Reine me plaît beaucoup, mais d'autres me plaisent aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et oui, ça m'a un peu cultivée, disons.
Ouais. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est qu'à plusieurs reprises, dans le questionnaire qu'on vous a envoyé, vous avez hésité entre Haydn et Mozart. Mozart est très présent.
Oui, j'aime beaucoup les opéras de Mozart. Et la Clémence de Titus, particulièrement, est dirigée par Sir Colin Davis, parce qu'il y a, dans la Clémence de Titus, de la clarinette, que j'aime beaucoup la clarinette. Et du coup... Je me suis intéressée à pourquoi, sans cette interprétation, la clarinette était si magnifique. Et j'ai vu que Sir Colin Davis était clarinettiste à l'origine.
Pourquoi la clarinette? Qu'est-ce qui vous plaît?
Je sais pas, c'est un instrument joyeux. Et il y a aussi, on parlait du clavecin tout à l'heure, il y a aussi dans la clarinette cette manière de détacher bien les sons.
On va tout de suite écouter Michel Portal dans le quintet en la majeure de Mozart. Michel Portal, voilà, c'est encore quelqu'un qui transgresse les gens.
Il y a aussi une interprétation de Benny Goodman qui a aussi transgressé, lui aussi clarinettiste de jazz, qui a fait un enregistrement du quintet à la clarinette de Mozart.
Et bien là, on va écouter Michel Portal avec le quatuor Cherubini.
Thank you.
L'Allegro du quintet avec clarinette en la majeur de Mozart, interprété par le quatuor Cherubini et Michel Portal. On l'écoutait avec beaucoup de plaisir, Josiane Savigno. Mozart et la clarinette, ça vous remet du baume au cœur ?
Ah oui. Ah oui, la clarinette et Mozart, Mozart et la clarinette sans Mozart aussi. La clarinette, comme le violoncelle, pour moi, c'est aussi de la voix, c'est pas seulement des notes.
C'est cette tessiture si proche de la voix humaine ?
Oui. C'est ça qui me plaît beaucoup, dans le violoncelle aussi. C'est un instrument que j'aime beaucoup, beaucoup, le violoncelle.
Et vous n'avez jamais essayé de jouer cet instrument-là
Oh non, mon désastre au piano m'a suffi.
Par rapport au journalisme, à l'écriture, à cet entretien avec Philippe Solers, Josiane Savigno, vous continuez d'interroger ces personnes qui sont devenues vos amies. Qu'est-ce que ces relations vous apportent ?
Ah, c'est difficile de répondre à cette question. Qu'est-ce qu'apporte l'amitié et la conversation avec des gens qu'on admire? Mais bon, Jair Solers, c'est un peu particulier parce que quand j'étais à l'université, c'était la grande époque de Tel Quel. Vous savez, la revue Tel Quel qu'il a créée dans les années 60 avec d'autres jeunes gens brillants de l'époque, Renaud Matignon, Jean Edernalier, etc. Donc on était dans les années 70 et alors j'avais des amis qui étaient des Tel Queliens, vous savez, comme ça, révérents. Et moi je disais, j'ai pas tellement l'esprit théorique, donc Tel Quel, c'est pas vraiment mon affaire, mais ce Solaire, c'est un grand écrivain. Ah, mais qu'est-ce que tu racontes là? Plus jamais il n'écrira de fiction. La fiction, c'est terminé. C'est la théorie qui prend la place de la fiction. Après, quand j'ai connu Solaire, ça m'a bien fait rire que ce soit moi qui le connaisse et pas ses copains qui ont disparu de la circulation.
Et justement, par rapport à l'écriture, l'écriture qui vous a guidé, mené, en rapport avec la musique, est-ce que ce sont les musiques, les mots qui vous portent? Qu'est-ce qui vous porte quand vous lisez? Qu'est-ce qui vous intéresse?
Ah ben le style, c'est vrai. Moi, je me dis toujours, quand on me dit, mais enfin, je dis ce livre, je déteste. On me dit, mais l'histoire est intéressante. Je dis, oui, mais comment c'est écrit? C'est ça qui m'intéresse, c'est pas l'histoire. Bon, toutes les histoires se répètent, ou c'est pas si singulier que ça, une histoire, même quand... Mais comment c'est écrit?
Ça, vraiment, donc la musique des mots.
Ben oui, la musique des mots. Comme la musique, par exemple, bon, c'est vrai que j'aimais beaucoup la voix de Barbara. Et Barbara, même quand elle faisait « tida la 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 », ça marchait. Il n'y avait pas forcément besoin qu'il y ait un texte.
On va déjà se quitter sur justement des airs que l'on chante, que l'on fredonne. Vous fredonnez visiblement un petit peu.
Oui, je siffle pas. Vous m'avez demandé si je sifflais sous la douche. Non, je siffle pas, mais j'ai parfois des chansons qui me trottent dans la tête et je sais pas vraiment pourquoi. Par exemple, le toit de Barbara. J'arrivais pas à m'en débarrasser pendant des jours et des jours. Tu m'as fait au premier matin timide et vierge, vierge et catin. Je commençais à en avoir marre. Même sous la douche.
Et la donna immobile.
Oui, c'est ça, la donna immobile, qual prima il vento, etc. Muta d'accento e di pensiero, parce que j'avais entendu ça dans une pub. Et tac, 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 ça m'a...
Comme quoi les publicités peuvent faire donner goût, en tout cas, à la musique classique.
Ah oui, c'est horrible.
Mais on va quand même finir.
Écouter l'original.
Et ben on va terminer cette émission avec un extrait donc de Rigoletto.
Mais très bien.
Et puis c'est Luciano Pavarotti qui l'interprète.
Ça va.
Ça ira. Merci beaucoup, Josiane Savigno, d'être venue. Je rappelle qu'Une conversation infinie a paru chez Bayard. C'est un entretien entre Philippe Solers et Josiane Savigno. Merci beaucoup d'être venue.
Merci à vous. Pensiero.
sentasi felice appieno chi non su quel seno non li va amore la donna è mobile la più malevento
Un extrait de Rigoletto de Verdi pour terminer cette émission en compagnie de Josiane Savigno qui était l'invitée de Musique et Moi ce matin. Nous avons parlé de cette conversation infinie parue chez Bayard et puis vous pourrez retrouver toutes les informations concernant cette émission sur le site de francemusique.fr à la rubrique Musique et Moi. Un grand merci à Guillaume Leduc qui était à la prise de son ce matin. C'est Sophie Pichon et Marie Ferdinand à la réalisation et attachée de production. Je vous souhaite une très belle semaine à l'écoute de France Musique. On se retrouve dimanche prochain à 11h.
France Musique. À réécouter sur francemusique.fr.